cet enseignement que nous vivons les premiers samedis du mois vise à nous aider dans le combat spirituel que nous avons tous à mener. Et je vous rappelle qu'il y a deux formes de combat. Il y a le combat ordinaire contre les tentations, contre certaines addictions à des attitudes qui ne sont pas justes. Ça, c'est notre combat ordinaire. Et le combat extraordinaire quand nous avons besoin de la prière de l'Église absolument et il s'agit d'infestations qui vont affecter directement notre corps, nos facultés psychiques, voire notre âme. Alors, je ne rentre pas encore dans tous ces détails, mais quel que soit, on va dire, votre besoin de délivrance, même si c'est un besoin de délivrance dans le combat extraordinaire, il s'agit toujours de passer le cran au-dessus pour le combat ordinaire. Parce que le grand danger, vous l'avez entendu, c'est de tout attendre d'une prière qu'on va recevoir d'une façon passive. Là, on n'est pas dans une démarche chrétienne, on est dans une démarche magique. Et sur Internet, vous avez des prières merveilleuses, des prières efficaces, pour telle situation, telle prière. Ça n'est pas chrétien, tout simplement. Parce que la prière, en tant que formule, n'est pas efficace. C'est la prière de foi qui entraîne effectivement pour une action de Dieu. C'est par la foi qu'on touche le cœur de Dieu. J'espère que nous comprenons bien cela. Vous avez sur le marché, par exemple, des livres de l'abbé Julio. Ça se vend même dans des librairies catholiques. Ça n'est pas chrétien. L'abbé Julio, on lui a demandé, c'est début 20e, si je ne m'abuse, fin 19e, début 20e, ses supérieurs lui avaient demandé de choisir entre l'ésotérisme et son sacerdoce. Bon, il a choisi l'ésotérisme. Donc, il va vous proposer même des psaumes, des prières chrétiennes, mais avec des rituels, par exemple, des signes à faire, etc. Donc, on n'est pas dans une démarche chrétienne, attention. Aujourd'hui, je voudrais vous donner quelques clés pour vivre ce combat ordinaire, indispensable pour chacun de nous. Je cite Saint Jean de la Croix. L'âme qui est unie à Dieu, le démon la redoute comme Dieu lui-même. Je le répète. L'âme qui est unie à Dieu, le démon la redoute comme Dieu lui-même. Il n'y a plus qu'à. Vous vous rappelez, pour ceux qui connaissent la petite Thérèse, de ce songe qu'elle a fait quand elle était petite, et elle voyait sur un espèce de tonneau, si mes souvenirs sont bons, des diablotins avec des fers à repasser aux pieds, ils avaient l'air complètement ridicules, qu'elle se dit, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'elle s'approche. Et quand elle s'est approchée, les diablotins allaient dans tous les sens, pris de panique. Parce que le démon ne supporte pas le regard d'un enfant. Il ne supporte pas le regard d'un enfant. J'ai pu moi-même l'expérimenter dans la prière d'exorcisme sur des cas de possession en invoquant le regard de l'enfant Jésus. Le regard même de Thérèse enfant. Je vous promets que là, le démon, il n'en est pas large. Voilà. Alors, donc, aujourd'hui, j'aimerais commencer à commenter avec vous cette parole de Jésus dans Luc 9, 23. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça vous fait envie de vous renier vous-même ? Vous n'êtes pas très très convaincu encore peut-être. Alors, je vous propose aujourd'hui de voir les deux premiers points. Il s'agit de suivre le Christ, parce que vous comprenez que si vous ne suivez pas le Christ, on ne va pas prier pour vous. Désolé, ce n'est pas encore l'heure. Il y a à mettre en place un minimum de démarches, de foi. Parce qu'on n'impose rien, Dieu ne s'impose jamais, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place ? Eh bien, cette parole nous dit, 1, renoncer à soi-même, 2, prendre sa croix, et 3, suivre le Christ. On va commencer par le premier point, on aura le temps aujourd'hui de voir les deux premiers points. Renoncer à soi-même. Pour bien comprendre cette parole, lisons l'Évangile. Jésus nous dit dans l'Évangile, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est le prologue de Saint Jean, l'Évangile de Saint Jean, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Autrement dit, nous avons chacun d'entre nous le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un devenir. Et il s'agira pour nous de ne pas se tromper sur notre identité. Si nous sommes baptisés et si nous avons donné notre vie au Christ, parce que être baptisé, ok, c'est très bien, c'est un bon début, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il s'agit de dire à Jésus que nous sommes d'accord avec notre baptême. Ce n'est pas juste un rituel, vous voyez, même si je crois qu'il y a des grâces spéciales. De toute façon, je suis pour le baptême des petits-enfants. Oui. Mais à nous de dire à Jésus, je suis d'accord avec mon baptême. C'est-à-dire, je t'appartiens. C'est ça ce que ça veut dire le baptême. Être baptisé, ça veut dire être immergé totalement. Le mot baptizein en grec, ça veut dire immergé. Immergé. Pas jusqu'aux genoux, pas jusqu'à la taille, mais complètement. Moi, je trouve que ceux qui vivent le baptême par immersion, ils ont de la chance. Je suis plutôt pour aussi. Je l'ai fait bien des fois pour des petits-enfants. Pour des adultes, dans nos églises, c'est un peu plus compliqué. Pas aller dans le Gave, on ne sait jamais. Ah bah bref, ça c'est autre chose. Alors, Jésus nous dit, Jean 3, 3, il dit plus exactement à Nicodème, « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Naître d'en haut. J'ai des amis évangéliques et ils emploient beaucoup cette expression. Il est né, il est rené. Aujourd'hui, cette semaine, il y a 4 personnes qui sont renées. Alléluia! Bon, ça c'est chez les évangéliques, on dit ça. Moi j'aime bien. J'aime bien, parce que c'est une vraie renaissance. Donc, ne nous trompons pas sur notre identité. Nous ne sommes pas l'homme ancien. Car saint Paul va nous parler de l'homme ancien et l'homme nouveau. Éphésiens 4, versets 22 et suivants. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien, corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créés selon Dieu dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Vous voyez ce qu'il nous reste à faire tous les matins ? On va se défaire de l'homme ancien, qui râle, qui n'est pas content, qui est négatif, tout ça. Vous allez dire, en regardant dans la glace, « Je ne suis pas mon vieil homme. Moi, je suis enfant de Dieu. » Donc, vous voyez, il y a une crise identitaire sur chacun de nous à dépasser. J'avais un accompagnement spirituel hier et la personne me partageait une blessure terrible de son enfance. Et elle me disait, je suis encore en colère contre Dieu. Donc, c'est bien, elle l'a vu. Mais je lui dis, mais écoutez, cette blessure, elle concerne l'homme ancien, mais c'est plus vous. Donc, la rogne que vous avez, c'est pas la vôtre. Lâchez-la dans le cœur de Dieu. Comprenez ? On a des gros problèmes identitaires. On confond le vieil homme et l'homme nouveau. Ah, j'ai pas envie aujourd'hui de prier. Vous pensez que c'est l'homme nouveau qui dit ça ? Ben non, c'est l'homme ancien. Et on a fait notre choix. On va dire, ça, c'est pas moi. Je ne suis pas ni ma maladie, ni mes tendances mauvaises, etc. etc. Ça, c'est pas moi. C'est mon vieil homme. Et mon vieil homme, on va le mettre derrière. Ok ? Donc, ça, c'est un travail au niveau de notre identité. Je vous promets que si vous y pensez le matin, dès la prière du matin, ça va changer pas mal de choses. Colossiens 3:3. Vous connaissez tous par cœur Colossiens 3:3. Considérez que vous êtes mort et ce que vous êtes est caché avec le Christ en Dieu. Vous êtes passé par la mort. C'est fait. Vous avez déclaré à votre vieil homme qu'il est mort. Ok ? Donc, vous me direz, t'es bien gentil, mais il faut quand même les guérisons, il faut quand même... Ouais, ok. Mais qu'est-ce qui te gouverne ? C'est ton âme profonde. C'est ton cœur profond. Là où Dieu est. Parce que c'est Saint Jean de la Croix aussi. Il dit, Dieu réside dans le centre de l'âme. Et le centre de l'âme, c'est l'homme nouveau. C'est l'homme nouveau. Qui dit, laissez-moi sortir. Vous savez, comme le naufragé qui est sous la coque de son bateau, qui frappe. Dieu en nous nous dit, laissez-moi sortir. Et l'homme nouveau le dit aussi. Arrêtons de nous juger nous-mêmes. C'est de l'auto-malédiction. Si nous nous regardons dans la glace, le matin, nous allons dire, je suis un enfant de Dieu. Et j'ai envie de ressembler de plus en plus à mon Père. Ça marche ? Jésus dit, moi je suis la vigne et vous êtes les sarments. Jean 15. Il n'a pas dit, je suis la fleur et vous êtes les papillons. Donc on va venir de temps en temps se ressourcer. D'accord ? Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Donc, soyons branchés, H24. Pas juste le cato un peu légaliste, mon père, je fais ma prière le matin, le soir, je vais à la messe le dimanche. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais entre les deux ? Je nous rappelle que la prière du matin, j'espère que chacun de nous prend un temps de silence et d'oraison avec Dieu tous les matins, c'est indispensable. Ça vise à débloquer en nous la prière perpétuelle. J'espère que nous sommes en train de prier. C'est-à-dire cette présence à Dieu. Il est là. Lui ne nous quitte pas. Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Première démarche donc, si nous voulons comprendre cette parole de Jésus, celui qui veut nous suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à cette fausse identité, désormais elle est fausse. Car vous n'êtes pas l'homme, la femme que vous étiez hier. Vous êtes né de nouveau. Et si vous ne savez pas qui vous êtes, moi non plus, je ne sais pas encore très bien qui je suis, on le saura au ciel, ce que nous dit l'Apocalypse. Eh bien, soyons en Dieu, nous allons découvrir qui nous sommes en activant les vertus de foi, d'espérance et de charité. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point, évidemment, qu'il renonce à lui-même, eh bien, on va revoir un petit peu les commandements de Dieu. Parce que renoncer à soi-même, c'est renoncer à la loi du vieil homme en nous. Je fais ce que je veux quand je veux. Vous savez, liberté, fraternité, égalité. On a persécuté très durement les chrétiens à la Révolution française. Aussi, pourquoi ? Parce que la notion de liberté évangélique n'est pas celle de la République franc-maçonne. D'accord ? C'est pas pareil. C'est pas « je fais quand je veux, ce que je veux, quand je veux ». La vraie liberté chrétienne, c'est « je suis maintenant capable d'être ce que je suis ». Et si je suis enfermé comme Maximilien Kolb dans un bunker de la faim, je suis libre quand je peux encore activer les vertus théologales, foi, espérance, charité. Et vous connaissez la fin de la vie de saint Maximilien Kolb. Il avait un quart de poumon, je crois, ou un demi, un quart de poumon, un demi. Bon, voilà. Et il a pu accompagner tous ses compagnons qui sont morts de faim. Et le 14 août, il n'était toujours pas mort. C'était le plus malin de tous. Et quand le nazi est venu pour faire la piqûre fatale, il ne pouvait pas soutenir son regard, tellement son regard était plein d'amour. Ça, c'est la liberté. Et cette liberté, personne ne pourra nous l'enlever. Personne. Alors, comment, déjà, quel pas nous avons à faire, nous, pour nous établir dans cette vraie liberté ? Vous allez me dire, moi, je n'y arriverai pas tout seul, vous avez raison. Jésus a dit, l'Esprit Saint vous rendra libre, c'est-à-dire libre du péché, libre d'aimer, quoi. En effet, pour aimer, non ? La Bible nous dit que Dieu est amour et que l'homme, il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, un homme, une femme, vraiment épanoui et accompli, c'est un homme, une femme capable d'aimer, agapé, hein, d'aimer, d'amour agapé, cet amour qui croit tout, qui espère tout, qui pardonne tout, capable de pardonner tout, d'accord ? Ça, c'est un homme, une femme accompli et libre. Alors, évidemment, c'est l'Esprit Saint qui va nous rendre libres, mais nous, qu'est-ce que nous avons à faire ? Eh bien, écoutez la parole de Dieu. Deutéronome 6, Shema Israël, écoute Israël. La première attitude, donc, pour nous, pour entrer dans ce chemin de liberté, finalement de bonheur, excusez-moi, c'est l'obéissance. On n'aime pas ce mot « obéissance ». O-B-I. Vous avez l'air enthousiaste. L'obéissance, une clé de bonheur. Waouh ! Parce que Dieu dit dans Deutéronome 30, « Je mets devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. Alors cette loi que nous donne Dieu, vous savez, dans l'Ancien Testament, elle ne s'appelle pas la loi. Les 10 commandements, en fait, ce sont les 10 paroles. Il ne s'agit pas d'un règlement de police. C'est 10 paroles qui donnent la vie. Ça vous intéresse toujours? Parce que c'est le mode d'emploi de la vie. Alors, c'est vrai que je nous conseille de reprendre de temps en temps les commandements de Dieu. Parce que ce sont des clés de vie. Peut-être vous arrêtez un jour sur un commandement, un autre jour sur un autre. Alors, les 10 commandements. Est-ce que vous vous rappelez des 10 commandements? Premier commandement. Tu adoreras Dieu et lui seul. Deuxième commandement. Tu ne jureras pas le nom de Dieu. Troisième commandement. Souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Alors, revoir un peu le catéchisme, je crois. Alors, quatrième, tu honoreras ton père et ta mère. Cinquième, tu ne tueras pas. Sixième, pas d'adultère, donc pas d'impureté. Septième, tu ne voleras pas. Huitième, pas de faux témoignage, tu ne mentiras pas. Neuvième, tu ne convoiteras pas la femme, le mari de ton prochain. Et dixième, enfin, tu ne convoiteras pas le bien, les biens de ton prochain. Alors, moi j'aime bien reprendre au hasard un des commandements. Je vous invite à faire un travail similaire sur chacun des commandements. Alors, souviens-toi du jour du Seigneur pour le sanctifier. Je vous ai déjà fait cette confidence pour ceux qui me connaissent. J'ai vécu en Israël pendant 2 ans. Et là, on avait beaucoup d'amis juifs. Et la première année, j'habitais à Jérusalem. Donc Jérusalem, au moment du... ils appellent ça le Shabbat. C'est le septième jour. Le dimanche, c'est le premier jour de la semaine. C'est le huitième jour. Et le septième jour, c'est un jour de plénitude, le chiffre 7. Et il n'y a aucune voiture dans la rue, dis donc. Même dans les grands boulevards à Jérusalem, on marche à pied. Aucune voiture. Bon, il y a peut-être quelques chrétiens, quelques musulmans, peuvent se balader en voiture, mais je vous promets, il n'y a aucun bus, c'est rien. Et les juifs à Jérusalem, enfin ceux que j'ai connus, étaient très pratiquants. On avait des amis juifs, ils venaient prier la prière d'entrée en sabbat, chez nous, en communauté, le vendredi soir. Ils arrivaient en voiture, ils repartaient à pied, avec un enfant dans les bras et un autre en poussette. Pas question d'allumer un moteur. Alors, moi je me suis dit, nous les chrétiens, on ne va pas forcément faire pareil, on va utiliser notre voiture, on va pouvoir éventuellement faire la vaisselle. Mais posons-nous la question, que faisons-nous pour sanctifier le jour du Seigneur? Alors, la messe du dimanche, ben, c'est le minimum, j'espère que tout le monde va à la messe le dimanche. Bon. Où trouver la force, sinon dans la parole de Dieu, l'Eucharistie, et dans la communion fraternelle, la messe du dimanche. Mais elle dure combien de temps en moyenne? 1 heure, bon, j'espère que, voilà, 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Il reste combien d'heures à sanctifier? 23. Bon, je vous laisse voir comment sanctifier le jour du Seigneur. Vous voyez, c'est très intéressant. Est-ce que l'aspirateur, je ne peux pas le passer un autre jour, par exemple? pas le dimanche. Est-ce que, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir certains juifs aller à la synagogue le samedi matin. Ils avaient cela, le nez plongé dans leur sidour. Le sidour, c'est le livre de prière. Parce que bon, c'est un peu voilà, légaliste et tout, peut-être, je sais pas, fondamentaliste, mais plongé tout le temps, on s'arrête pas de prier, quoi. Moi, j'ai trouvé ça beau. Et j'ai des amis qui ont fondé une petite communauté en région parisienne, et ils font l'entrée en dimanche et la sortie du dimanche. Bon, en fait, c'est les premières vêpres du dimanche et le samedi soir, et le dimanche soir, mais ils ont solennisé un peu le truc, et puis on met les habits du dimanche, on met la nappe du dimanche, si on a de l'argenterie, on met l'argenterie. Vous voyez, on a à redécouvrir le dimanche. C'est vraiment le jour du Seigneur. C'est vraiment le jour du Seigneur. Et moi, je suis finalement, j'ai redécouvert les habits du dimanche quand j'étais en communauté. Voilà. Et je trouve ça beau. Et vous voyez, les Juifs, avant de rentrer dans leur sabbat, Shabbat, ils prennent une douche, se lavent complètement. C'est que des nouveaux vêtements. Alors, réfléchissons sur la façon dont nous vivons le dimanche. Et il y a des gens qui me disent, mais en fait, moi, je suis fatigué en permanence. Et moi, la première question que je leur pose, comment vous sanctifiez le jour du Seigneur? Parce que notre fatigue, elle est d'abord spirituelle. Notre corps peut être fatigué. Mais si notre âme est fatiguée, vous aurez beau dormir toute la journée, ça ne vous servira à rien. Parce que l'âme a besoin de repos. Et ça, c'est la grâce, eh bien, du repos en Dieu. D'accord ? Vous voyez, c'est intéressant de plonger un peu dans les commandements de Dieu. Bon. Il y a des gens qui me disent, mon père, je ne me confesse pas parce que je ne sais pas quoi dire. Confession. Bon. Alors, je vais vous donner des idées. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, comment ? De tout ton cœur, tout ton esprit, toute ton âme, tout ton esprit. Vous pensez aimer Dieu comme ça, vous ? Vous êtes des obsédés de Dieu ? Vous faites confiance en Dieu 100% ? Vous demandez les résurrections ? Vous n'êtes jamais désespéré ? Jamais, jamais, ça ne t'arrive jamais, ça. Bon, vous voyez, il y a toujours de quoi à demander pardon à Dieu, parce qu'on l'a offensé. Pas notre manque de foi. Et puis, tu aimeras ton prochain, bon, comme toi-même, c'est le Lévitique 19 qui dit ça, mais Jésus, il va nous dire aussi, dans Jean 13, je vous donne un commandement nouveau. En quoi ce commandement est-il nouveau ? Il a rajouté, « Comme je vous ai aimé ». Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Alors, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'en permanence, vous aimez les autres comme Jésus ? Vous voyez, je vous donne des idées, quoi. Donc, si vous n'avez pas si vous savez pas formuler le truc, eh bien, pardon Seigneur, parce que je ne t'aime pas assez, il y a des moments où je ne t'ai pas vraiment aimé, où je ne t'ai pas fait confiance, pas assez en tout cas. Et pardon Seigneur, parce que soit j'ai mal aimé, soit j'ai jugé, j'ai pas assez aimé, quoi. C'est insuffisant. Alors vous allez me dire, t'es vraiment culpabilisant, hein, parce qu'on n'est jamais au niveau. Ouais, mais justement, c'est l'occasion de se tourner vers le seul juge. C'est pas nous le juge, c'est lui. Et il nous sauve. S'il nous montre nos péchés, c'est pour nous combler de sa miséricorde. Alors on risque rien. Parce que si on dit, moi, Seigneur, je jeûne deux ou trois fois par semaine, je donne la dîme de tous mes biens, je je ne suis pas comme ce pharisien. Vous vous rappelez de ça dans l'évangile? Bon, alors nous, on peut ressembler à ça. Mon père, moi, je ne me confesse pas parce que je n'ai pas de péché. Ah bon? Ok. Yes. Alors, n'oublions pas que la loi de Dieu, si nous l'appelons comme ça, est chemin de vie. C'est une alliance avec Dieu. Nous faisons alliance, mais c'est magnifique. Nous avons fait un pacte d'alliance avec Jésus. Si vous n'êtes pas sûr de l'avoir fait, faites-le. Si vous vous sentez prêt, évidemment, parce que c'est une aventure. L'esprit souffle où il veut. On ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Bon, bonne chance. Mais c'est super intéressant de vivre avec Jésus. On ne sait pas où on va, mais on sait qu'on va au ciel. Alléluia. Bon. Alors, c'est un chemin de vie. Et c'est le mode d'emploi de la vie, tout simplement. À nous, effectivement, d'écouter cette parole de Dieu, de l'écouter et de la mettre en pratique. Alors, on a rappelé les commandements, les 10 commandements. Éventuellement, je pense que vous avez des feuilles dans le fond, petit guide pour se confesser. Vous avez tout ça qui est bien marqué dessus. On va rappeler les péchés capitaux. On va voir si vous êtes bon au catéchisme. Alors, premier péché capital. On va commencer par le corps. Le corps. La gourmandise. Ça s'appelle la gastromalgie. D'ailleurs, on va manger pas, on ne respecte pas son corps. Qualitatif et c'est quantitatif, on mange trop. Donc c'est un manque d'amour de soi-même, la gourmandise. Ça peut être aussi un manque d'amour des autres parce qu'il n'y a pas de partage. Ensuite, la luxure. Ensuite, rapport à l'argent, l'avarice. Ensuite, au niveau des facultés psychiques, la jalousie. Vous n'êtes jamais jaloux, hein? La jalousie, c'est un manque d'être. Si on est jaloux, c'est qu'on a un problème identitaire. On croit que c'est mieux chez les autres. Mais non, le Seigneur t'aime tellement et d'une façon unique. Ça, c'est le contrepoison de la jalousie. Vous voyez, c'est intéressant de travailler sur ces notions-là. La colère. La colère, c'est la réaction à l'injustice, nous dit saint Thomas. Ben, il faut bien réagir à l'injustice. Sauf que la colère comme péché est une réaction destructrice. Je casse tout. Ensuite, la paresse. Est-ce que vous êtes paresseux? Alors, spontanément, on va dire non, moi je me lève le matin sans problème. Oui, mais quand tu vas... Si tu es père de famille et que tu vas tondre la pelouse, le samedi après-midi, au lieu de t'occuper de tes enfants, tu es un paresseux. Parce que tu es là où Dieu ne t'attend pas. Ça, c'est la paresse. Mais vous voyez, intéressant. Parce que les paresseux sont souvent des gens hyperactifs. Ils travaillent tout le temps. Mais ils ne sont pas là où Dieu les attend. Peut-être que Marthe et Marthe était peut-être paresseuse. Mais attendez, tu te rends compte? Elle est en train de s'occuper de la cuisine. Elle veut laisser Jésus tout seul alors que c'est la parole de la vie. Non mais, espèce de paresseuse. On fera le boulot après? Moi, j'aurais peut-être invité Jésus dans la cuisine, on marque. On peut faire deux choses à la fois, mais il y a des moments où il faut s'arrêter. Voilà. Donc, la paresse. Et puis finalement, l'orgueil, évidemment. Tout tout par moi et tout pour moi. Ça, c'est l'orgueil. Tout par moi. On refuse toute dépendance. Or, nous sommes faits pour être interdépendants. Si je suis indépendant, seul dans ma tour d'ivoire, alors j'ai besoin de personne et pas de Dieu. Ça, c'est l'orgueil. Et tout pour moi, c'est l'égoïsme qui va avec l'orgueil. Ok, ok. Alors, vous avez dans ce chapitre-là, et on va passer à autre chose, les maladies de l'âme. Je vous invite donc à les voir. Il y a la philotia, c'est l'amour égocentrique. Je t'aime parce que j'ai besoin de toi. Ne me quitte pas. Ça, c'est pas de l'amour. C'est l'amour utilitaire. Et après, tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comment tu me traites. Ça, c'est pas de l'amour. C'est philotia. Ça veut dire que vous n'avez pas aimé gratuitement. C'est agapé qui est le véritable amour. Philotia. Il y a une pathologie de l'âme qui s'appelle la tristesse. La tristesse, c'est le manque de foi. On n'a plus de foi, on n'a plus d'espérance. Ça, c'est la tristesse. Et on s'y installe. À ne pas confondre avec la tristesse psychologique. Je suis triste parce que je suis fatigué. Voilà, on a le droit d'être triste. Je suis triste à en mourir, dit Jésus. Mais il y a une tristesse de l'âme qui, en fait, et je cite Sainte Catherine de Sienne, a une seule cause, le manque de foi. Espérance et charité, mais ça commence par la foi. La sédie, c'est le bof, l'ennui, et ça suit évidemment. Et finalement, la vanité, où on va vivre dans le paraître, dans le paraître. Bon, tout ça, je voudrais juste voir avec vous, parce qu'on est dans le catéchisme ce matin, quels sont les préceptes de l'Église. On monte d'un cran. On va faire un jeu. Quel est le premier précepte de l'Église catholique, j'entends. Participer à la messe le dimanche et les autres fêtes de précepte et se libérer des travaux et des activités qui pourraient empêcher la sanctification de ces jours-là. On en a parlé tout à l'heure. Donc le dimanche, on va à la messe. Moi, je vous fais une confidence. Je n'aime pas la messe anticipée du samedi soir. Bon. Si on est obligé, parce que le dimanche, c'est absolument impossible d'avoir une messe, ok, ok. Mais moi, un dimanche sans messe, je trouve ça d'une tristesse, à couper le couteau. Je ne sais pas comment vous êtes. Bon. Parce qu'il y a des gens, ils vont à la messe le samedi soir pour être débarrassés. Comme ça, le dimanche matin, on va tondre la pelouse, et puis surtout, on va faire le repas pour les enfants, les petits-enfants, et puis après, on est tranquille. Waouh ! Elle est où ta foi ? Les cathos du dimanche, excusez-moi, il faut qu'ils se réveillent. Alors, confesser ses fautes, combien de fois dans l'année ? Combien de fois on se confesse ? Minimum. Une fois, c'est quand ? À Pâques. Alors, le conseil de la Sainte Vierge à Médigorier, pour ceux qui sont allés à Médigorier, lieu reconnu comme lieu de pèlerinage par l'Église universelle, d'accord ? Médigorier, en Bosnie-Herzégovine, la Sainte Vierge conseille la confession mensuelle, une fois par mois. Tant que vous avez des prêtres, allez les voir. Vous savez, les prêtres, ils ne s'usent pas. Quand ils confessent, c'est un peu comme les piles Vondère. Plus vous les utilisez, plus ils se rechargent. L'Eucharistie, combien de fois dans l'année ? Tous les jours. Une fois au moins dans l'année. Bon, je ne sais pas comment ils font, ceux qui reçoivent l'Eucharistie. J'ai fait mes Pâques, Seigneur, j'ai fait. Voilà. mon père, j'avais mes Pâques. Moi, je vous ai toujours raconté, j'ai connu une consacrée qui était au Gabon, elle s'occupait d'un mouvoir, et elle refusait de partir en croisière parce qu'elle n'aurait pas la messe tous les jours. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire, si tu as des situations très difficiles à vivre, la messe quotidienne, ben c'est souverain. Je vous ai parlé de Sœur Dolaï, elle est à Nai, communauté des Béatitudes. C'est une Chinoise. Et quand elle revenait de ses missions en Chine continentale, elle allait dans des villages où il y avait beaucoup de chrétiens. Il y a la messe tous les jours, pour eux, tous les âges, les petits, les moyens, les vieux, ils se retrouvent tous à l'église. L'église est pleine, tous les jours, tous les matins, 5h30, ça commence tôt, ou 5h, je ne sais plus. Et puis, donc, les grands, ils vont au travail, les petits, ils vont à l'école, et puis le soir, rebelote, on se retrouve tous. Donc, ils ont le temps de prier le chapelet, il y a le temps de la messe, enfin, voilà. L'Église du Seigneur. Quatrième, s'abstenir de manger de la viande et jeûner au jour fixé par l'Église. C'est vrai que c'est le message aussi de la Vierge à Medjugorje. Redécouvrir la grâce du jeûne. Dans l'Église primitive, on jeûne le mercredi et le vendredi. Pourquoi le mercredi? Parce que la semaine sainte, mercredi, on fait mémoire de la trahison de Judas. Et le jeûne donne de la force à l'âme. Si vous n'arrivez pas à jeûner totalement, faites une monodiète. Moi, j'aime bien la monodiète à l'épeautre. Bon, mais chacun a son truc. Le but, c'est pas d'avoir faim, mais c'est de réveiller en soi la faim de Dieu. Et l'esprit est plus clair en plus. En tout cas, donc s'abstenir de viande, mais si vous faites à la place de la viande un super plat de poisson en sauce, vous n'avez rien compris. Bon. Et finalement, le jeûne de précepte avant la communion, c'est quoi? Vous vous rappelez? Une heure avant. Et le café rompt le jeûne. Si vous prenez un café avant d'aller à la messe, vous ne communiez pas. Ben oui, parce que le café rompt le jeûne. Ce qui ne rompt pas le jeûne, c'est l'eau et les médicaments. Alors après, l'Église dit que pour les personnes malades, très âgées, tout ça, évidemment, on sera beaucoup plus cool, quoi. Mais si vous allez faire un bon repas chez des amis, vous n'allez pas vous bourrer, même prendre un café avant d'y aller. Soyons logiques. On arrive à la messe en ayant faim de Dieu. Quand j'étais à Jérusalem, j'ai eu l'occasion d'être invité par des orthodoxes grecs à le monastère Sainte-Croix, si vous connaissez. Et en fait, là-bas, ils jeûnent depuis minuit, la veille au soir. Bon, c'est ce qu'avaient connu nos parents, mais dans les écoles, les pauvres enfants, ils s'évanouissaient parce qu'ils n'avaient pas pris de petit déjeuner, quoi. Voilà. Donc, l'Église catholique a revu un peu à la baisse tout ça, mais soyons quand même vigilants. Parce que s'il ne se passe rien pour vous lorsque vous communiez le dimanche, peut-être que votre cœur, il n'a pas vraiment faim de Dieu. Donc, travaillons sur ce point-là. Alors, je vais aborder le début du deuxième point aujourd'hui. On va partager un peu en deux. Il est assez délicat. Vous avez compris donc le premier point. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Si je renonce à moi-même, à mon vieil homme, eh bien, je postule que je suis un enfant de Dieu. ça c'est une bonne nouvelle. Et je suis libre dans le Seigneur. Le deuxième point, on n'aime pas trop l'entendre. Qu'il prenne sa croix. Eh oui, qu'il prenne sa croix. Comment faut-il comprendre cette parole de Jésus ? Je fais un rappel. Le péché originel a laissé trois malédictions. Il y a trois malédictions qui demeurent suite au péché originel. La première malédiction, c'est l'ignorance. L'ignorance de Dieu, l'ignorance des choses spirituelles. Dieu est l'au-delà de tout. Et moi, je peux dire, du haut de 1m80, Dieu n'existe pas. Waouh, waouh, waouh. Comme le poisson, dans son bocal, il dirait, la mer n'existe pas. Ok. Ça, c'est la première malédiction. Deuxième malédiction, c'est évidemment la tendance au péché. Romains 7, je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Je fais le mal que je ne voudrais pas faire. Tendance au péché. Et enfin, troisième malédiction, c'est la souffrance et la mort. Et Jésus vient nous libérer de ces trois malédictions et de toute malédiction de péché. Il vient nous libérer. Par rapport à l'ignorance, il nous donne sa parole. Il est la parole du Père. Il nous révèle qui est Dieu. Et il dit, qui m'a vu a vu le Père. Nous serons libérés de l'ignorance. La tendance au péché, il nous envoie son Saint-Esprit. Et il fait de nous des créatures nouvelles. Et il nous envoie en son nom. Et il nous donne la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Pourquoi Dieu n'exaucerait-il pas cette prière ? Il va donc nous libérer de cette malédiction tendance au péché. Et enfin, la troisième malédiction, vous me direz, elle est plus délicate, c'est la souffrance et la mort. Jésus vient nous libérer de cette malédiction. Comment il fait ? Alors malheureusement, il ne va pas forcément empêcher que nous vivions, que nous passions par la souffrance et par la mort. Mais il va la transfigurer. C'est ça la réponse de Dieu. Parce que lui-même passe par là. Lui-même a voulu souffrir. Et combien ? Et comment ? Et il a fait de cette souffrance sur la croix une offrande à Dieu qui nous sauve. Et c'est comme ça qu'il va transfigurer nos souffrances. Notre mort, alors on va le prendre au pied de la lettre. Jésus dit dans Jean 11, juste avant de ressusciter Lazare, « Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Je demande à Marthe, « Mais est-ce que tu crois ?» La mort n'est plus la mort. La mort en Christ n'est plus la mort. Elle devient passage. Et bien des saints ont dit qu'ils ne mouraient pas. Bon, je parle souvent de la petite Thérèse, il faut me pardonner. Mais la petite Thérèse, avant de mourir, elle dit « Je ne meurs pas. Je ne meurs pas. J'entre dans la vie. » J'ai fait graver ces paroles sur la tombe de mes parents. Je ne meurs pas. Et ceux qui ont vécu cette expérience de mort apparente sont là pour nous le signifier. Parce que la véritable mort, c'est quoi? C'est la mort de l'âme. Quand l'âme a choisi la mort, qui est l'absence de Dieu, en disant, moi, je me débrouille, 6, 6, 6, le sixième jour, ça me suffit. Je n'ai pas besoin de Dieu. Qu'est-ce qui arrive après la mort? Nous sommes sauvés de la mort. Il a vaincu la mort. Et il a aussi transfiguré notre souffrance. Siracide 2. Mon fils. Alors, pour la petite histoire, quand je suis rentré aux Béatitudes en 86, j'ai demandé une parole au Seigneur. Je suis tombé sur Siracide 2. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Yes. Fais-toi un cœur droit et tiens bon, ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Alors, vous lirez la suite. Job est l'exemple de cet homme juste à qui il arrive plein de malheurs. C'était un notable. Tout le monde le respectait. Il avait des fils, des filles. Et suite à une mystérieuse permission de Dieu, le démon va faire tomber sur lui des calamités. D'abord, tous ses biens sont détruits. Ensuite, tous ses enfants vont mourir parce que la maison s'est écroulée. Là où ils faisaient tous la fête. Ça ne suffisait pas. Le démon en remet une deuxième couche. Il tombe malade. Il a une espèce de lèpre. Affection de la peau, il se gratte. Et finalement, lui qui était respecté de tout le monde, quand il arrivait sur la place, tout le monde disait chute. Tout le monde se levait. Eh bien, il perd son honneur. Et c'est vrai que quand on souffre et que ça dure longtemps, parce que si on a juste une grippe qui dure 15 jours, vous avez à voir les amis autour de vous. Mais si vous avez une longue maladie qui dure 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ça sera plus difficile. On ne sait pas quoi dire à une personne qui souffre comme cela. Les amis de Job avaient essayé de trouver le pourquoi. Et puis les uns après les autres sont dit, mais t'as péché, c'est une malédiction de péché. Parce que ça existe la malédiction de péché, on est d'accord. On le trouve dans le Deutéronome, on en a déjà parlé, Deutéronome 27 et verset 26 et Deutéronome 28 verset 15. Si nous ne suivons pas la loi de Dieu, il nous arrive des malheurs. Ça c'est vrai. Sauf que il y a des maladies, il y a des souffrances qui arrivent, il n'y a pas d'explication. Même Jésus le dit au sujet de l'aveuglonné, Jean 9. Ses disciples qui l'interrogent, mais Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répond, ni lui ni ses parents n'ont péché. Mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent à lui. Donc, mystère du scandale, du mal, Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que parfois Dieu semble absent et pas capable d'empêcher le mal, mais s'il n'empêche pas le mal, c'est qu'il sait que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Si vous êtes dans la souffrance, vous pouvez répéter Romains 8, 28, Romains 8, 28, Romains 8, 28. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous avez lu sans doute un des livres classiques des débuts du renouveau charismatique, La puissance de la louange. Merlin Carothers, je ne le dis pas avec l'accent, c'est un Américain. Merlin Carothers. Et lui, en fait, il a découvert que ce qui était important, c'est de louer le Seigneur en permanence, comme le dit d'ailleurs saint Paul. Réjouissez-vous, mais soyez toujours dans... rendez grâce en tout temps, en tout lieu, rendez grâce. Alors lui, en toutes circonstances, j'ai raté mon avion, Seigneur, je te bénis, il raconte ça, et que finalement, heureusement qu'il a raté cet avion, parce que l'avion lui a un problème technique. Bon, c'est assez intéressant à lire, mais c'est aussi une façon de vivre. À chaque fois que nous sommes dans l'épreuve, eh bien, activons les vertus théologales de foi, espérance et charité. Seigneur, je proclame ta victoire dans cette situation. J'en ai ras-le-bol, ok. Mais je proclame ta victoire. Ça, c'est le combat de la foi. Voilà. Donc, cette clé qu'on reprendra, je crois, la prochaine fois, dans l'épreuve, persister dans les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Et si vous avez compris, si nous avons compris que nous ne sommes pas notre vieil homme et que dans notre psychologie un peu fragile, nous avons tendance à nous décourager et à être tristes, ben nous pouvons aussi proclamer notre foi. Ça vous est sans doute arrivé d'arriver à un groupe de prière, ils sont tous en train de louer le Seigneur, en train de faire comme ça, et vous dites « Waouh, j'ai pas envie !» Parce que vous arrivez avec une casserole et louer le Seigneur, bon, ben, forcez-vous un petit peu. Mais ça a du sens, parce que vous allez dire « Je suis pas mon vieil homme qui a pas envie. Moi, je suis un homme, une femme de foi. » D'accord ? Je cite encore la petite Thérèse de Lisieux. Cette parole de Job, « Quand même Dieu me tuerait, j'espérerais encore en lui », m'a ravi dès mon enfance. Je vous le répète. « Quand même Dieu me tuerait, j'espérerais encore en lui ». J'ai été longtemps avant de m'établir à ce degré d'abandon. Maintenant, j'y suis. Le bon Dieu m'y a mise. Il m'a prise dans ses bras et m'a posée là. Quand vous êtes dans l'épreuve, des petits trucs, les psaumes et la parole de Dieu. Psaume 21, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Le salut est loin de moi, loin des mots que je rugis. Mon Dieu, j'appelle tout le jour et tu ne réponds pas. C'est une prophétie de la passion de Jésus, évidemment. Mais lisons jusqu'au bout, verset 20. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Verset 22, tu m'as répondu. Tu m'as répondu. Et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur, glorifiez-le, vous tous, descendants de Jacob, vous tous, redoutez-le, descendants d'Israël. Moi, j'aime beaucoup un certain nombre de psaumes, mais le psaume 83, verset 6. « Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. » Si vous pensez que vous êtes dans une impasse, le remède, psaume 83, verset 6. « Heureux les hommes dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. » Petite Thérèse, avant de mourir, un mois avant de mourir, elle dit « Je souffre beaucoup. » Je vous rappelle qu'elle avait une tuberculose qui était descendue dans les viscères. « Je souffre beaucoup, mais est-ce que je souffre bien ?» Il y a un bien souffrir comme il y a un mal souffrir. Souffrons en paix, je cite toujours la petite Thérèse. J'avoue que ce mot de paix me semblait un peu fort. Mais l'autre jour, en y réfléchissant, j'ai trouvé le secret de souffrir en paix. Qui dit paix ne dit pas joie, ou du moins joie sentie. Pour souffrir en paix, il suffit de bien vouloir tout ce que Jésus veut. Je vous le répète. Pour souffrir en paix, il suffit de bien vouloir tout ce que Jésus veut. Pour être l'épouse de Jésus, il faut ressembler à Jésus, Jésus qui est tout sanglant, il est couronné d'épines. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite, ce sera pour la prochaine fois. Parce qu'on aborde des thèmes très délicats, très difficiles, mais on a déjà quelques éléments, d'accord? Dans la souffrance, dans l'épreuve, prendre sa croix, ça veut dire rester dans la foi, dans l'espérance, et la charité. On n'est pas comme la femme de Job qui dit à son mari « Maudit Dieu et meurs !»« Maudit Dieu et meurs !» C'est ce qu'elle dit, franchement. Et nous, quand on souffre, on est un peu comme ça. Donc, le combat ordinaire, « Seigneur, quoi qu'il m'arrive, eh ben je crois en toi. » Et je le dis, je proclame ta victoire, Seigneur. Vous pouvez vous aider par des chants. Hein. Vous mettez YouTube avec des chants. Nous élevons le nom de Jésus, par exemple. Voilà. Non, pas encore, c'est pas fini. Voilà. Donc, pour terminer, eh bien, sachons que, effectivement, dans l'épreuve, Dieu nous transforme. Et là, on le verra la prochaine fois. Dieu nous transforme. Nous ne souffrons jamais pour rien. D'accord ? Voilà. On verra la prochaine fois, on va reprendre ce thème de prendre sa croix et aussi qu'il me suive, l'école de l'humilité et de la douceur. Comprenez que si nous sommes installés dans une souffrance qui nous fait toujours râler contre Dieu, nous sommes dans l'auto-malédiction. Relisons le livre des Nombres. Quand les gens ont râlé contre Dieu et contre Moïse, eh bien, il y a eu les serpents. Donc, ne soyons pas des victimes et des victimes encore, victimales. Trouvons notre consolation en Dieu. Il est notre consolation.